Vous écoutez
RMC.
Très bon réveil à tous. Il est 7h sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Un deuxième soldat français est mort des suites de ses blessures. Un autre casque bleu, lui aussi victime de l'embuscade du Hezbollah dans le sud du Liban. Traquer les fraudeurs aux allocations, oui, mais en respectant les droits des usagers. L'alerte ce matin sur RMC de la défenseur des droits. Et puis ne parlez pas d'âge à Paul Sexas, le prodige français du cyclisme impressionnant, grand vainqueur de la Flèche Wallonne.
L'armée française endeuillée une nouvelle fois par la guerre au Moyen-Orient.
Un deuxième soldat français est mort des suites de ses blessures, touché lui aussi par les tirs attribués au Hezbollah dans le sud du Liban. L'embuscade avait déjà coûté la vie à un militaire, le sergent Florian Montorio. Ils étaient déployés dans le cadre d'une mission de maintien de la paix. Le caporal-chef Anicet Girardin, 31 ans, faisait partie du 132e régiment d'infanterie cynotechnique de Suip dans le Val-de-Marne. Village très choqué où s'est rendu Cassandre Brault pour RMC.
Dans cette petite commune, l'annonce de la mort du caporal-chef Anicet Girardin affecte tous les habitants.
C'est proche de nous, ça nous touche, parce que ça pourrait être nos enfants.
Céline est commerçante à Suip.
Forcément, oui, on en parle entre nous. Tel militaire, même si on ne les connaît pas personnellement, on sait qu'ils sont de chez nous.
Elle est d'autant plus émue que son frère et le militaire décédé font partie du même régiment.
C'est un sujet qui touche, puisque ils travaillent avec, donc... C'est pas facile.
C'est la particularité. Ici, à Suip, les militaires participent à la vie de la commune, raconte le maire François Collard.
On a tous dans nos proches des militaires et on s'imagine la peine de la famille, la peine de la perte d'un ami. Et donc, on est tous endeuillés.
Militaire expérimenté, père de 31 ans, c'est aussi un frère d'armes que pleurent les autres soldats de son régiment, comme l'explique le lieutenant-colonel Alexandre Carman.
Pour l'instant, il y a un sentiment de tristesse. On a perdu quelqu'un et lorsqu'on l'a vu partir en début de mandat, on ne pensait pas ne plus le revoir.
Un hommage est organisé les 7 et 8 mai prochains à Reims, sa ville natale.
Un reportage à Suip dans la Marne de Cassandre Brault et l'hommage pour Florian Montorio a lieu aujourd'hui en fin de matinée à Montauban dans le Tarn. Le pétrole repart à la hausse ce matin alors que les négociations patinent entre l'Iran et les États-Unis. Le cessez-le-feu prolongé par Donald Trump, mais jusqu'à quand? Il n'y a pas de date limite, explique la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Levitt.
Le président Trump a annoncé une prolongation du cessez-le-feu qui concerne les frappes militaires. En revanche, nous maintenons le blocus du détroit, nous étranglons complètement l'économie de l'Iran. Ils perdent 500 millions de dollars par jour, ils ne peuvent plus faire entrer de pétrole ni en sortir. Pour l'instant, le président se satisfait de cette situation et attend leur réponse. Donald Trump n'a pas fixé de date butoir concernant ce cessez-le-feu. Le calendrier sera fixé par le commandant en chef et le président des États-Unis.
Et nouveau pourparlers aujourd'hui à Washington entre les ambassadeurs israéliens et libanais. Le Liban veut demander de prolonger d'un mois le cessez-le-feu qu'ils s'accusent mutuellement de violer. Hier, une journaliste libanaise a été tuée dans une frappe israélienne. Face au contrôle contre la fraude sociale, la défenseur des droits appelle à respecter ceux des usagers. Elle a choisi RMC pour lancer cette alerte. Claire Hédon, invitée d'Apolline Matin à 7h40, elle dénonce dans un rapport le risque d'abus dans les contrôles aux aides sociales et aux allocations. L'utilisation d'algorithmes peut faire peser des risques et des difficultés sur certains usagers, parfois à partir d'une simple erreur, Amélie Courtet.
Quand on parle de la caisse d'allocation familiale à Muriel, 54 ans.
C'est un traumatisme, je ne les supporte plus.
Un traumatisme qui commence en mars 2020.
Petit courrier de la CAF, comme quoi une charmante dame allait venir faire un contrôle. On m'a demandé de rembourser 8000 euros de dette parce que j'avais été une vilaine fraudeuse.
Dans ce courrier, cette mère divorcée indique que l'organisme l'accuse d'avoir menti sur sa situation familiale. Pourtant...
Moi, j'ai prévenu dans les délais les changements de situation. Donc c'est là où j'ai pas compris ce qui s'était passé.
De multiples recommandations suivent, lui intimant de rembourser des trop perçus.
On ne peut pas se défendre parce que quand vous voyez tous les articles de loi que la CAF sort, vous êtes un peu écrasé. C'est une machine de guerre. Hein. Ça pousse à bout.
Depuis, elle ne touche plus aucune prestation sociale.
Même si j'ai droit à la prime d'activité, je n'en veux plus.
Conséquence d'un niveau de surveillance jamais atteint selon le sociologue Vincent Dubois.
Il y a un surcontrôle des populations les plus précaires. On pourrait se dire, normal, les bénéficiaires du RSA trichent plus que les autres. Mais non seulement ça n'est pas le cas, mais en plus ça crée des discrimination.
Des contrôles vécus comme opaques, violents et empreints d'une présomption de culpabilité d'après le rapport.
Une nouvelle affaire de séquestration sur fond de crypto-monnaie, une de plus qui s'ajoute aux 40 recensées depuis janvier par la police judiciaire. C'est en Bretagne que cela s'est passé lundi à Ploudalmézeau près de Brest. Deux hommes ont séquestré une famille entière, le père travaillant dans les crypto-monnaies. Les voisins n'en reviennent toujours pas. Le reportage de notre correspondant Martin Lange.
C'est dans un pavillon à la façade bicolore que des voisins ont découvert lundi en fin de matinée une mère de famille, ses deux enfants et leurs grands-parents ligotés. Très vite, les forces de l'ordre interviennent. Noël habite au bout de la rue.
On a vu, c'est vrai, beaucoup de gendarmes. On s'est rapidement dit que c'était assez grave, en tout cas en soi, que c'était pas un cambriolage simple.
Pendant plusieurs heures, la famille a subi les sévices de deux hommes cagoulés et armés. Ils ont notamment menacé la mère de lui couper un doigt. Leur objectif, obtenir le mot de passe du portefeuille numérique de la famille et accéder à la crypto-monnaie qu'elle possède. Près de 700 000 euros, selon nos informations, même si le préjudice financier est encore en cours d'évaluation, des méthodes qui choquent ces riverains.
Surtout dans ce contexte-là, quand il y a des enfants, des grands-parents, enfin, c'est hallucinant, il n'y a pas de limite.
Mais comment ils ont été repérés, il faut savoir, ça pose plein de questions, mais ce n'est pas rassurant.
Selon le procureur, le père, absent au moment des faits, exerce des activités dans le domaine des crypto-monnaies. Le maire, David Carrega, a pu s'entretenir avec la famille.
Ils étaient très 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 choqués, c'est sûr qu'ils seront sûrement marqués longtemps, mais... Voilà, ils vont bien, les enfants vont bien.
Une enquête a été ouverte pour retrouver les deux hommes. Elle a été confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Rennes.
Deux CRS sont en garde à vue à Nice pour violences aggravées et vol. Un homme a porté plainte et les accuse de l'avoir frappé et dépouillé samedi dernier. Les deux fonctionnaires n'étaient pas en service. La vidéo de l'agression a été transmise aux enquêteurs. Il est 7h06 sur RMC. C'est la nouvelle pépite du cyclisme français. Paul Sexas confirme son nouveau statut. Le Français a encore frappé hier en devenant Maria Azé le plus jeune vainqueur de la Flèche Wallonne. 5 ans que la Marseillaise n'avait plus retenti au sommet du mur de Huy.
C'est une très belle course que je regarde tous les ans à la télé, donc pouvoir la gagner pour ma première participation, c'est exceptionnel.
À 19 ans, Paul Sexas devient le plus jeune vainqueur en 90 éditions de la Flèche Wallonne.
Moi je retiens juste que j'ai gagné, après mon âge ça m'intéresse, pas vraiment.
Les supporters français présents à l'arrivée ne regrettent pas d'avoir fait le déplacement.
Nous on est venus en Belgique, on voit un Français gagner, ça fait plaisir, c'est le remplaçant de Bernard Hinault qu'on attend nous.
En plus pour une première participation, très bonne surprise et puis vive la France quoi.
Il fait des sacrés performance et on pense qu'un tour et ça pourrait bien lui convenir quand même.
Prochaine échéance pour le français Liège-Bastogne-Liège, dimanche où Paul Sexas retrouvera Tadej Pogacar pour un duel au sommet. Le manager du Slovène Mauro Gianetti reste attentif.
Il faut toujours méfier par tous les coureurs et surtout pour un coureur si jeune et si costaud et si fort et si motivé comme Paul à ce moment.
Avant dimanche, Paul Sexas va savourer 7e victoire cette saison alors qu'il ne compte que 50 jours de course en professionnel. En football, on a désormais l'affiche de la finale de la Coupe de France. Ce sera Lens-Nice. Match dans un mois, le 22 mai au Stade de France. Nice qui a éliminé Strasbourg 2-0 hier. Une sacrée éclaircie dans une saison compliquée en Ligue 1. Ils sont à 4 points seulement du barragiste. Le PSG, lui, prend 4 points d'avance sur Lens. Les Parisiens ont battu sans difficulté Nantes. Victoire 3-0. Et puis lui va réaliser dans quelques mois son rêve d'enfant. Cyril Ferraud est le nouvel animateur de Fort Boyard, celui qu'on connaît plus pour Slam, succède donc à Olivier Mine, qui lui a animé l'émission emblématique pendant 25 ans. Quand même.
C'était le journal de Clara Gabillet. Il est 7h08 sur RMC. Goût pastèque, kiwi ou encore tequila pomme. En quelques clics sur internet, il est désormais possible de commander des bonbonnes de protoxyde d'azote. Des bonbonnes de protoxyde d'azote qui sont pourtant dangereuses et en théorie, en tout cas, interdites en France. Bonjour Maître Benoît Javot. Vous êtes l'avocat de l'association Antoine Aleno, du nom du fils du chef étoilé Yannick Aleno, tué par un chauffard sous protoxyde d'azote. Il faut mettre ces vendeurs hors d'état de nuire. Voilà votre parti pris. Vous le défendrez dans un instant. Et puis j'attends vos témoignages au 3216. Dites-nous si vous observez autour de vous cette consommation de protoxyde d'azote, si vous-même vous en avez consommé et comment faire pour lutter. Il est 7h09.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h12 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Cette action de groupe annoncée hier en justice contre deux entreprises accusées de vendre des bonbonnes de protoxyde d'azote. Bonjour Benoît Javot, vous êtes avocat, vous représentez l'association Antoine Aleno du nom du fils du chef étoilé Yannick Aleno. Votre parti pris ce matin, c'est qu'il faut mettre hors d'état de nuire ces entreprises. Ce que je trouve extrêmement frappant, et vous êtes venu dans ce studio, je le précise pour ceux qui nous écoutent à la radio, vous êtes venu dans ce studio avec des exemples de ces bonbonnes en vente, qu'on trouve en vente sur Internet, en trois clics, que l'on trouve en vente dans les épiceries de nuit. C'est des bonbonnes énormes qui ne peuvent pas même faire semblant d'être vendues pour faire de la cuisine. Et ces bonbonnes, elles sont en vente, c'est à vous de les poursuivre. Comment ça se fait que ce soit pas l'État qui fasse le boulot ?
Alors, notre action, elle est complémentaire de ce que l'État fait, et l'État, pour l'instant, son action, elle est insuffisante. La loi est insuffisante, il y a une loi de 2021. Le gouvernement entend prendre des nouvelles mesures. Elles-mêmes ne permettront pas une lutte efficace sur la totalité des sujets. Notre action, effectivement, elle vise à mettre sur la place publique ce sujet encore plus, et aussi d'avoir un effet utile. Vous voyez ces bonbonnes-là qui font 2 kilos, qui sont énormes. L'alibi commercial qui est mis en avant par le réseau Crime de Luxe, qui est la marque principale.
Crime de Luxe, il faut quand même préciser que la marque principale, ça s'appelle Crime de Luxe.
Exactement.
Je veux dire, pardon, mais le nom même de la marque interroge.
Ah mais tout est fait du nom de la marque au marketing, au packaging, pour viser les jeunes consommateurs avec un univers festif. Vous avez des produits qui s'appellent Lady Killer, Love 66. On vous dit, on vous décrit sur le site que ça, ce tank qui fait 2 kilos, ça, c'est une anse qui permettrait, comme un bazooka.
Voilà.
Comme un bazooka. Donc vous avez tout un langage, un discours commercial et des visuels qui visent à cibler les jeunes. Et pourtant, l'alibi, c'est de vous expliquer que ça, ça servirait en cuisine et ça servirait pour faire des cocktails. Or, le chef Aleno et tous les chefs et barman à qui on a posé la question nous disent que ça n'a jamais été utilisé, ça ne le sera jamais, c'est inadapté techniquement. Ce qui est utilisé, c'est des cartouches de 8 grammes.
Beaucoup plus petites. Et là, je précise aussi pour ceux qui nous écoutent, vous avez apporté ici, donc, d'un côté, ce que vous appelez ce tank, et en effet, je veux dire, c'est une énorme bonbonne, ça ressemble plutôt à un bidon, qui est donc ce qu'ils vendent comme soi-disant pour la cuisine. Et puis à côté, les toutes petites bonbonnes, celles qu'on voyait dans les tiroirs des cuisines de nos grands-mères, qui sont en réalité des cartouches de protoxyde d'azote. Exactement. Qui, elles, sont effectivement utilisées en cuisine.
C'est ça, il n'y a pas de doute. Et en fait, la croissance exponentielle de l'usage détourné avec toutes les dommages sur les jeunes et les accidents de la route, je répète que l'année dernière, 450 accidents routiers impliquant le protoxyde d'azote. Il y a cette croissance exponentielle de la consommation, elle est due à l'apparition sur le marché de ces formats-là, bonbonnes et tanks, directement qui ont remplacé les cartouches, et leur format même n'a d'autre objet que un usage détourné.
Et on a fait le test ce matin avec la rédaction d'RMC. En 2 clics sur Internet, on peut commander ces bonbonnes effectivement présentées soi-disant pour des professionnels. C'est donc un détournement manifeste de leur usage.
Ah bah, c'est notre thèse. Je pense que vous avez fait la démarche. Nous, on l'établit dans le cadre de l'action. Et il est important que les pouvoirs publics s'en saisissent pleinement. Et l'association demande à rencontrer le ministre de la Justice pour lui expliquer notre action et l'importance qu'il s'associe à notre action. Et également des mesures qui devraient être prises en complément de ce qui est envisagé parce que c'est insuffisant.
Alors évidemment, il y a une forme de cynisme aussi, on le voit bien dans cette vente, ce marketing, comme vous le disiez. Aujourd'hui, on le trouve en vente sur Internet, on le trouve en vente aussi dans les épiceries de nuit, on le trouve en vente dans les bars à chicha, on le trouve en vente partout.
Et le réseau Crème de Luxe, comme d'autres réseaux qui vendent ces formats de protoxyde d'azote, sont très adaptables. Et en fait, plus ça va, plus ils vont vers des réseaux occultes qui sont proches soit de la contrebande, soit même du trafic de stupéfiants. Vous trouvez maintenant facilement dans des épiceries de nuit, des bars à chicha, derrière le comptoir, vous pouvez demander ça, et un tank comme celui-là se vend 50 euros. Vous avez aussi des drives dans certains endroits ou la possibilité d'utiliser Snapchat. C'est donc entre la contrebande et les réseaux de trafic de stupéfiants pour la distribution aux jeunes consommateurs.
50 euros pour une bonbonne comme celle-ci. Les ravages épouvantables, vous avez parlé de ces 450 accidents graves de la route l'an dernier. Les ravages aussi sur la jeunesse, avec parfois des jeunes qui se retrouvent handicapés, véritablement, parfois à vie, pour l'usage de cette drogue. À quel niveau de proportion désormais vous notez ces évolutions ? C'est-à-dire, est-ce que c'est devenu désormais quelque chose de courant vraiment chez les jeunes ?
Ouais, deux choses. Une statistique, 6% des jeunes qui étaient interviewés disaient qu'ils avaient déjà pris le volant en ayant pris du protoxyde d'azote, des jeunes en dessous de 25 ans. Et je pense que tout à chacun, les téléspectateurs, c'est la même chose. On peut voir dans la rue, les matins et surtout les week-ends, des bonbonnes ou des tanks qui restent par terre. Donc on n'a pas de chiffre officiel, justement, parce que ce sont des réseaux pour partie occulte, mais on peut voir les stigmates de cette utilisation détournée des ravages chez les jeunes de façon assez simple et au quotidien.
Est-ce que l'État prend la mesure ? Vous le dites, c'est pas suffisant.
Alors, en tout cas, dans le discours, ils prennent la mesure. Le projet de loi Riposte, qui a été annoncé par le ministre de l'Intérieur, envisage des sanctions qui sont dissuasives sur la consommation, l'importation, ainsi de suite. Mais il y a des réalités qui ne sont pas envisagées. Typiquement, ces formats-là, il est encore prévu qu'on puisse les vendre à des professionnels. Or, les professionnels n'ont pas d'utilité, c'est inadapté.
Des formats comme ceux-là devraient être interdits. Nous n'en avons pas besoin.
Oui, on a des attestations.
Donc tout ça est hypocrisie.
Hypocrisie, exactement.
Merci beaucoup. Merci, Maître Benoît Javot, avocat associé au cabinet Squadra, et vous représentez donc l'association Antoine Aleno. Vous menez donc cette action de groupe qui a donc été annoncée hier, lancée en justice contre les deux entreprises principales accusées de vendre ces bonbonnes de protoxyde d'azote. Vous n'hésitez pas d'ailleurs à réagir au 32-16. Il est 7h19 et dans un instant, on va remonter le temps. Arthur Chevalier est rentré dans ce studio. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, alcoolique, ne se présentant pas à certaines réunions, le patron du FBI est mis en cause par la presse américaine.
Et si je vous disais, Apolline, ce matin, que c'est Napoléon Bonaparte qui est à l'origine du FBI?
Vous allez nous raconter l'histoire du FBI et ça trouve racine en France. À 8h30, notez-le dans le face-à-face, mon invité ce sera le ministre des PME et du pouvoir d'achat, du commerce, Serge Papin. Et dans 5 minutes, Arnaud Demange va venir pirater l'interview. Restez bien avec nous, il est 7h19.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h20 et vous êtes bien sur RMC, RMC Story. On va remonter le temps comme chaque jour avec Arthur Chevalier. Arthur, l'un des hommes les plus puissants des États-Unis, se retrouve dans la tourmente. C'est le patron du FBI. Il est accusé d'être alcoolique, colérique et même de menacer la sécurité publique américaine.
Eh oui, ces accusations viennent du magazine The Atlantic, hein, Cash Patel. C'est un proche de Donald Trump qui l'avait d'ailleurs nommé à la tête du FBI en février 2025. Alors d'après cette enquête, son comportement serait effectivement incompatible avec ses fonctions. En plus d'être alcoolique, il se montrerait paranoïaque. Il lui arriverait aussi d'être injoignable, de ne pas se réveiller pour des réunions. Bref, de son côté, Patel a porté plainte contre le magazine. Il a déclaré « Je n'ai jamais été ivre au boulot ». Fin de citation. Ah. 250 millions de dollars de dommages et intérêts, c'est ce qu'il réclame.
Alors, c'est grave parce que le FBI, c'est l'agence la plus puissante des États-Unis.
Absolument. Et figurez-vous que le FBI a des origines françaises. Apolline, son fondateur, c'est un descendant de Napoléon.
Vous voulez
Bonaparte.
Pas voir des Napoléons partout.
Mais vous allez voir que pourtant j'ai raison. C'est l'arrière-petit-neveu de Napoléon qui l'a créé. Il s'appelait Charles-Joseph Bonaparte. Il était américain. Il va faire une très belle carrière jusqu'à devenir ministre de la Justice. C'est à ce poste qu'en 1908, il crée le BOI, le Bureau of Investigation, ancêtre direct du FBI.
Alors au départ, sa mission, c'était quoi?
Alors c'était d'être une police au service du gouvernement, puisque le problème avant, c'est que les polices des différents États n'avaient pas le droit d'intervenir dans un autre État que celui auxquelles elles étaient rattachées. Au contraire, les agents de ce nouveau bureau pouvaient désormais intervenir sur tout le territoire, donc circuler dans tous les États-Unis, ce qui a rendu tout le monde plus efficace.
Cette institution, elle doit beaucoup à un homme.
Oui, cet homme, c'est John Edgar Hoover. Il prend la direction du BOI en 1924 et il va en devenir le seigneur et maître jusqu'en 1972. C'est lui qui change le nom du bureau en 1935. Ça devient donc le FBI, le Federal Bureau of Investigation. Il va en faire une machine d'influence et d'espionnage. Tout ce que l'Amérique compte de puissant est désormais surveillé, écouté, fiché par le FBI. Tout le monde avait peur de Hoover, y compris les présidents américains qui savaient qu'ils connaissaient leur vie privée. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est resté aussi longtemps en place.
Et je recommande une lecture passionnante, La Malédiction d'Edgar. Ça va d'ailleurs prendre des proportions inquiétantes.
Oui, avec un programme de contre-espionnage lancé en 1954. Ça s'appelait COINTELPRO. Le but, c'était de protéger le gouvernement de tout ce qui pouvait le déstabiliser. Les ennemis désignés, c'était les communistes et les militants pour l'égalité raciale, à commencer par Martin Luther King lui-même. Il était suivi. Quand il allait dans un hôtel, on mettait des micros dans sa chambre. Il y en avait d'ailleurs aussi chez lui. Le FBI ira jusqu'à lui envoyer des lettres de menace pour qu'il se retire de la politique. Bref, ce bureau est surpuissant, très utile pour le gouvernement, mais attention, puisque il peut aussi se retourner contre lui. Voilà pourquoi le choix de son directeur a toujours été très sensible.
Merci beaucoup Arthur Chevalier, qui réussit quand même à citer Napoléon dans une chronique sur le FBI. C'est très très fort. Alors, on accueille Arnaud Demange.
RMC.
Demange Pirate, le face-à-face.
Et bonjour.
Salut Arnaud. Mon invité tout à l'heure dans le face-à-face, ce sera le ministre des PME et du pouvoir d'achat, Serge Papin.
Oui, on le connaît pas très bien, mais alors, vous allez vous amuser, Apolline. Franchement, il est rigolo. Il a une voix marrante. Il a la voix de Columbo. Ça va être super. Je sais que vous aimez bien. Serge Papin, bonjour. Ah, Mme de Malherbe. Merci de me recevoir. Vous savez, ma femme vous adore, elle vous regarde tous les matins alors qu'elle met ses bigoudis. Oui, alors Serge Papin, les prix augmentent. Oh oui,
et j'ai de bonnes raisons de croire que le pouvoir d'achat des Français a été assassiné, madame. C'est Donald Trump le responsable? Bon, ça, il est encore un peu tôt pour le dire, madame de Malherbe. Mais selon moi, on est obligé de constater que c'est la guerre en Iran.
C'est sûr.
Quelle histoire, ça aussi.
Aïe, aïe, aïe.
On est peu de choses, madame de Malherbe. Vous savez, ma femme, madame Papin, me disait, c'est plus comme avant. Nous, quand on était gamins, avec mon petit cousin Gino, on n'avait pas grand-chose. Mais on était heureux. Un simple chat crevé. On jouait au football pendant des heures.
Oui, certes, Papin, on n'a pas le temps pour vos souvenirs. Il est déjà 11h30.
Alors la guerre, pardon. Donc je parle. Et il y a la guerre. Quelle histoire. Vous savez qu'il y a des chèques carburants, madame. On a fait des chèques carburants.
Voilà. Oui, merci, cher Papin. Et c'est l'heure d'Estelle Midi. Je peux faire ça pendant des heures. Alors, j'ai appris que Serge Papin, c'était le plus riche de tous nos ministres. Oui. Vous avez vu, ils ont dévoilé leur patrimoine. Alors, on apprend que Sébastien Lecornu est dans le rouge avec moins 590 000 euros sur son compte. C'est vachement rassurant, hein. Confier les finances publiques à quelqu'un qui sait même pas gérer son budget quand son banquier l'appelle et lui dit « Monsieur le Premier ministre, vous êtes à découvert de 500 euros. » « Oh, c'est rien, hein. Sur mon compte pro, je suis à moins 3400 milliards.
Ah ben ça va alors. »
Donc on apprend que Serge Papin a un patrimoine de 8,5 millions et que son collègue Michel Fournier a une cabane dans les Vosges et une camionnette blanche d'occasion.
Non.
Ça, on savait. Avec un enfant à charge dedans.
Non.
Ah non, il l'a plus. Ah si, il y a un nouveau. Ah non, ça doit être galère pour sa déclaration de revenus. Allez, rendez-vous avec Serge Papin entre 8h et 14h30. 8h30, pardon, 8h30. À tout à l'heure.
Arnaud Demanche qui est avec nous tous les jours. Et puis ne manquez pas, tiens aussi, après le face-à-face, Nicolas Canteloup, c'est à 8h50 sur RMC. Dans un instant, la météo et le journal de 7h30. Et puis juste après, la lutte contre la fraude doit respecter les droits des usagers. En gros, l'idée, c'est que lutter contre la fraude, c'est bien, mais lutter trop... Non, ça, c'est pas possible, parce que les honnêtes gens ne peuvent pas se retrouver à devoir prouver leur honnêteté. C'est la défenseuse des droits qui tire le signal d'alarme. Elle est dans ce studio à 7h40. N'hésitez pas, vous aussi, à nous appeler au 3216 si vous avez eu maille à partir avec l'administration. À 7h50, ce sera la voix de gauche, Cécile Duflo. Son plaidoyer, non, l'orthographe n'est pas une religion. Elle nous le dira, vous l'entendrez. Il est 7h27. À tout de suite. Il est 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Clément Gouitz. Bonjour Clément.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La France face à un défi massif avec 500 000 entreprises à reprendre dans les 10 prochaines années. Le ministre des PME et du Commerce, Serge Papin, va dévoiler ce matin sur RMC ses mesures pour aider les transmissions d'entreprises. Un hommage national aujourd'hui aux militaires de Montauban, tués au Liban le week-end dernier dans une embuscade menée par le Hezbollah. Embuscade qui a coûté la vie hier à un deuxième soldat français. Et ce matin, on en sait un peu plus sur les circonstances de leur mort. Nice-Lens, c'est l'affiche de la finale de la Coupe de France.
Comment éviter la disparition de milliers d'entreprises faute de repreneurs?
500 000 entreprises vont devoir trouver un nouveau propriétaire dans les 10 prochaines années. Il y a donc urgence, 3 millions d'emplois sont en jeu. Le gouvernement promet des mesures pour aider les transmissions d'entreprises. Le ministre des PME et du Commerce, Serge Papin, va les dévoiler ce matin sur RMC à partir de 8h30. Et Rachel Sadodine, les difficultés sont nombreuses. Vous l'avez constaté dans cette ferronnerie de l'Eure-et-Loire.
Une petite dizaine d'employés restaurent ici des ouvrages en fer destinés au Louvre, à l'Arc de Triomphe ou encore à Notre-Dame sous la houlette de deux patrons, le repreneur Maroun et le cédant Jean-Christophe.
Je vais présenter l'atelier avec différents postes de travail. On va faire les opérations de perçage, de taraudage, vissage, montage, etc.
Et tout ce vocabulaire-là, Maroun
J'étais pas familiarisé, donc il y a encore des choses à apprendre, bien évidemment.
Pour assurer donc une transmission tout en douceur, les deux hommes décident de s'associer. Maroun rachète 60% de l'entreprise, non sans difficulté.
Entre le moment où j'étais voir les banques, j'ai déposé un dossier, il s'est passé 6 mois. Le cédant aurait pu se lasser. Les collaborateurs qui savaient qu'il y avait une session qui était en cours auraient pu se poser des questions. Ça peut jouer sur le moral, la motivation, c'est pas forcément évident.
C'était sans compter sur la patience de Jean-Christophe. L'ancien patron a mis 4 ans à trouver le repreneur parfait sans jamais baisser les bras.
J'ai vu beaucoup de monde passer. Certains voulaient l'entreprise, mais pour pas cher. Ils avaient pas trop l'intention d'y travailler. Ils avaient l'intention de trouver quelqu'un qui puisse la faire tourner. Et pour moi, c'était pas viable. Une entreprise, c'est un bébé.
Pour accompagner les chefs d'entreprise dans leur départ à la retraite, le ministre des PME, Serge Papin, promet envoyer dans les prochaines semaines un courrier d'information à tous les patrons de plus de 55 ans.
RMC 7h32, l'armée française une nouvelle fois endeuillée. Cinq jours après une embuscade dans le sud de Liban, un deuxième militaire français a succombé à ses blessures hier. Il s'agit du caporal-chef Anissé Gérardin, 31 ans. Il faisait partie du 132e régiment d'infanterie de Suip dans la Marne. Et Antoine Audion, on en sait un peu plus ce matin sur les circonstances de leur mort.
Oui, le caporal-chef Anissé Gérardin portait secours à son supérieur lorsqu'il a été grièvement touché. C'était il y a 5 jours lors d'une mission de reconnaissance pour ravitailler des casques bleus de l'ONU. Il s'est retrouvé isolé, sa patrouille a été violemment prise à partie par des tirs de combattants du Hezbollah embusqués à très courte distance, décrit la ministre des Armées Catherine Vautrin. Dans cette même embuscade, l'adjudant Florian Montorio avait été mortellement touché et 2 autres soldats français ont été blessés. Âgé de 31 ans, paxé et père d'un enfant, le maître chien spécialisé dans la recherche d'explosifs a d'abord été hospitalisé à Beyrouth, puis rapatrié en France, mardi, dans un hôpital militaire où il est décédé hier.
Antonin Audion, un hommage sera organisé les 7 et 8 mai prochains à Reims, sa ville natale. Et c'est aujourd'hui à Montauban qu'aura lieu une cérémonie d'hommage national au sergent-chef Florian Montorio, tué dans cette embuscade. Israël et le Liban se retrouvent à Washington. Beyrouth va demander une prolongation d'un mois de la trêve en vigueur depuis vendredi dernier. Pas question de rouvrir le détroit d'Ormuz tant que les États-Unis imposent leur blocus au port iranien, annonce Téhéran. De son côté, Donald Trump n'a pas fixé de date butoir à l'Iran pour faire une proposition. Conséquence, les prix du pétrole flambent, plus 4% cette nuit, $105 le baril. RMC 7h33, la vidéo a fait le tour des réseaux. Une violente altercation entre un professeur et 2 élèves dans un lycée montpelliérain. On vous en avait parlé en début du mois. On y voit l'enseignant bousculé avant de gifler un élève et une situation qui dégénère dans les couloirs. Le rectorat a ouvert une enquête flash et dès hier soir, RMC a pu se procurer les conclusions de cette enquête, Sarah Bélienne.
Cette enquête confirme qu'il y a eu contestation de l'autorité de l'enseignant et des faits de violence de la part des 2 adolescents. Alors que le professeur réprimande des élèves, un autre le prend à partie, l'enseignant se retrouve plaqué au mur. S'ensuivent alors les scènes de violence visibles dans la vidéo. Le document mentionne aussi le geste inapproprié du professeur, cette gifle intervenue, je cite, dans un contexte de dégradation rapide de la situation. Dans un courrier que nous avons pu consulter, le directeur académique de l'Hérault affirme que les élèves seront convoqués en conseil de discipline. L'enseignant jusqu'ici suspendu fera lui l'objet d'un rappel à ses obligations professionnelles et devra suivre une formation à la gestion des conflits. Lui et les 2 élèves ont affirmé regretter leur geste. Désormais, le rapport est entre les mains de l'autorité judiciaire.
Un accord migratoire entre Paris et Londres. Objectif tenté de freiner les traversées clandestines de la Manche avec une nouveauté de taille. Une partie du financement britannique dépendra désormais des résultats sur le terrain, jusqu'à 766 millions d'euros sur 3 ans. RMC 7h35. On connaît l'affiche de la finale de la Coupe de France. Un doublé de Wai hier face à Strasbourg. On voit l'OGC Nice en finale face à Lens. Les Aiglons en grande difficulté en Ligue 1 s'offrent un match de gala presque inespéré, Clément Brossard.
Oui, Nice s'est offert un bol d'air dans une saison galère. Le capitaine Morgan Sanson en est conscient.
Sentiment de joie, forcément. Je pense qu'aujourd'hui, peu de gens nous voyaient sortir vainqueurs. Donc non, une fierté. Bravo à l'équipe.
Déjà vainqueur de la Coupe de France avec Toulouse en 2023, le gardien niçois Maxime Dupé a toujours voulu y croire.
C'est sur mon protège tibia, ma femme qui m'a offert ça. J'ai la coupe dessus. C'était pour moi en tout cas un objectif. C'est une saison, je peux même dire, de merde. Mais voilà, il y a ce petit truc qui peut la rendre presque exceptionnelle.
À condition de se maintenir en Ligue 1, car Nice, 15e du championnat, ne compte que 4 points d'avance sur le barragiste Auxerre. L'entraîneur Claude Puel n'oublie pas les priorités.
La meilleure façon d'aborder une finale, c'est quand même de faire le nécessaire à un championnat et d'être sauvé le plus vite possible. La seule perspective, la seule projection qu'on a maintenant, c'est Marseille et rien d'autre.
Mais s'il peine à se projeter, il assure une chose.
D'abord, une finale, ça se joue pas, ça se gagne.
Pour offrir à Nice un titre de Coupe de France qu'il n'a plus remporté depuis 29 ans.
La finale Nice-Lens est prévue le 22 mai prochain au Stade de France. Et en Ligue 1, le PSG reprend 4 points d'avance après sa victoire hier 3-0 en match retard de la 26e journée face à Nantes.
Et puis le Quintet, ça se déroule sur l'hippodrome de Paris-Longchamp et c'est à 13h55.
Et le pronostic de la Dream Team des courses RMC, leur favorite est le 3 Chess et leur outsider le 5 Ferdinand Premier.
C'était le journal de Clément Gouitz. Il est 7h37 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
On m'a demandé de rembourser 8000 euros de dette parce que j'avais été une vilaine fraudeuse. Moi, j'ai prévenu dans mes délais les changements de situation. Donc, c'est là où j'ai pas compris ce qui s'était passé. On peut pas se défendre parce que quand vous voyez tous les articles de loi que la CAF sort, vous êtes un peu écrasé. C'est une machine de guerre. Hein. Ça pousse à bout.
Ça pousse à bout, voilà le témoignage que vous venez d'entendre de Muriel. Muriel, la CAF lui a reproché d'avoir menti sur sa situation, une erreur qui s'est transformée en cauchemar. Bonjour Claire Hédon.
Bonjour Apolline.
Vous êtes la défenseur des droits. Des cas comme celui que nous avons recueilli, vous en avez collecté énormément. Au fond, la lutte contre la fraude, c'est bien, mais il ne faudrait pas que ça se retourne contre les gens honnêtes. Vous avez choisi RMC pour dévoiler votre rapport et vous dénoncer dans un instant cette lutte qui finalement se fait parfois au détriment des allocataires. Je vous attends au 32-16. Dites-nous si vous avez déjà rencontré ce type de situation. Venez donc témoigner et réagir. Il est 7h38.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h41, bon réveil à tous sur RMC. Quand la lutte contre la fraude se retourne finalement et rend la vie des allocataires honnêtes impossible. C'est ce que vous dénoncez ce matin. Bonjour Claire Hédon.
Bonjour Apolline.
Vous êtes la défenseur des droits, merci d'avoir choisi RMC pour dévoiler votre rapport ce matin. Au fond, bien sûr, la lutte contre la fraude c'est nécessaire et d'ailleurs ça rapporte beaucoup et on a réalisé qu'il y avait de très gros montants à réaliser dans la fraude contre les allocations ou les prestations sociales. Sauf que c'est désormais en train de se transformer en une véritable chasse aux sorcières. C'est ce que vous dénoncez.
Exactement. Et vous avez raison de rappeler que la lutte contre la fraude est indispensable. C'est d'ailleurs un objectif à valeur constitutionnelle. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais nous, ce qu'on observe, et on est là pour défendre les droits des usagers, c'est que cette lutte contre la fraude, elle se retourne contre les personnes. D'abord, il y a une confusion entre les erreurs et la fraude. Et la fraude, c'est l'organisme social qui doit démontrer qu'il y a eu une intention frauduleuse. Et nous, on observe très souvent dans nos réclamants des erreurs. Et les erreurs, elles sont dues à quoi ? À la complexité du système. Les erreurs, il faut le savoir, ne proviennent pas que des usagers, mais aussi des organismes. C'est comme ça que sont générés ce qu'on appelle des indus, c'est-à-dire en gros des sommes qui sont trop perçues, et les personnes reçoivent un courrier disant qu'elles doivent rembourser ces sommes. Et très souvent, ces courriers ne sont pas très clairs. Est-ce que justement c'est un indu, une erreur, ou est-ce qu'il y a une accusation de fraude ? Et c'est important pour l'usager de savoir ce sur quoi on l'accuse, parce que la question du recours sur une décision et quelles vont être les possibilités pour aller contester et dire, en fait non, je me suis juste trompé à cause de la complexité des démarches.
La distinction entre l'erreur et la fraude volontaire, la question de la complexité des démarches et de l'accès même aux services publics, on va y revenir. Mais il y a quand même quelque chose que je comprends pas. On nous avait parlé du fameux oups. Vous vous souvenez le oups? C'est-à-dire le j'ai le droit d'avoir, de m'être trompé, je suis en de bonne foi, et l'administration me doit en quelque sorte cette possibilité, cette option de dire je me suis trompée. En fait, ça c'était largement théorique.
Votre oups, il est dans la loi, c'est la loi ESSOC qui consacre le droit à l'erreur. Et nous, qu'est-ce qu'on observe dans une institution comme la nôtre? C'est l'écart entre le droit annoncé et son effectivité. Mais on parle de choses très concrètes. Enfin, moi je pense à une femme retraitée sur laquelle qui vit à l'étranger, sa pension de retraite est suspendue pendant 8 mois. Il a fallu 8 mois pour qu'on lui rétablisse à cause de la question de la sûreté de son existence. Et elle a donné des
preuves. Elle a dû prouver qu'elle était en vie.
Ce qui est normal. Qu'elle a dû prouver qu'elle était encore en vie, ce qui est parfaitement normal, mais elle n'a pas compris. Elle a envoyé plusieurs certificats de vie qui n'ont pas été considérés comme valables, mais à aucun moment on lui a expliqué quel était le problème, pourquoi ce n'était pas considéré comme valable. Moi, ce qui me frappe, c'est des courriers qui sont excessivement compliqués à comprendre et les personnes ne comprennent pas exactement ce qu'on leur demande. Et j'insiste sur le fait que les erreurs ne viennent pas que des usagers. Les erreurs viennent aussi des organismes sociaux et vous l'avez dit, on a certains réclamants qui doivent 10 000 15 000, 25 000 euros. C'est quand même énorme après à rembourser.
Claire Hédon, l'usage des réseaux sociaux aussi par les contrôleurs, ça vous inquiète parce que vous constatez aussi que c'est une forme d'intrusion, qu'il y a ensuite une difficulté à y mettre vraiment des garde-fous. Jusqu'où peut aller l'intrusion dans la lutte ou au nom de la lutte contre la fraude?
Alors, toujours au nom de la lutte contre la fraude, on peut faire un certain nombre de choses, mais les risques, c'est les atteintes à la vie privée, la façon dont sont utilisés les réseaux sociaux, qu'est-ce qui est public, pas public. Et puis, d'autre part, c'est quand même très important que les personnes comprennent quel a été le motif du contrôle de départ. Justement, est-ce que c'est un algorithme? Est-ce que c'est l'intelligence artificielle qui a été utilisée? À quel moment est intervenu de fait un contrôleur et pour pouvoir après le contester? La question après, qui est très importante, c'est le plan de remboursement. Quand il y a eu un dû ou erreur, comment se fait
Eh ben, vous savez quoi, justement, on a le témoignage d'Alexandra qui nous appelle depuis l'Essonne. Bonjour Alexandra.
Bonjour à Pauline et bonjour à votre invité.
Alexandra, soyez la bienvenue. Racontez-nous ce qui vous est arrivé à vous. Il y a eu justement un trop perçu et ça vous a mis dans la très grande difficulté.
Alors c'est intéressant ce que vous venez de dire à l'instant, parce qu'en fait déjà il faut comprendre ce qui s'est passé. Je vous avoue qu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé, c'est un embrouillé au mon dossier. Oui. J'étais en train de me séparer. Oui. Je suis accompagnée à ce moment-là par un travailleur social de la CAF qui me dit que même quand on est encore sous le même toit du conjoint, on peut indiquer qu'on s'est séparé.
D'accord.
Donc moi je suis accompagnée par un travailleur social. Du coup, en plus, c'est un peu fort de café, vous allez comprendre, je suis moi-même accompagnatrice socio-professionnelle.
D'accord.
Donc, j'ai l'habitude d'être régulièrement en lien avec les services de la CAF. Et puis, des fois, vous tombez sur des personnes qui sont très condescendantes aussi, hein. Ça, c'est quelque chose, qu'il est important de souligner aussi. Et puis, mon dossier n'est pas mis à jour. Ça, je le comprendrai après. Je n'ai jamais perçu de prime d'activité. Je ne percevais pas d'APL quand j'étais encore avec mon conjoint dans le logement. Et je m'installe au mois d'octobre dans un nouveau logement ici où je suis actuellement avec mes trois enfants. Et je fais une demande d'APL.
Ouais.
Et quand je fais la demande d'APL, je suis recontactée par une technicienne. Comme j'avais pas les revenus suffisants, donc comme on nous le demande trois fois le montant du loyer en revenu, mon fils apparaissait sur le bail. Mon fils aîné qui travaille en alternance, et j'ai un coup de fil un matin et on me dit, comme votre fils apparaît sur le bail, vous allez percevoir, on va tenir compte de la moitié du montant du loyer pour le calcul de vos APL. Très bien. Et puis on me dit, mais votre fils, il perçoit plus de 55% du SMIC. Je lui dis, vous en avez connaissance de ces revenus puisque vous récupérez les revenus de l'administration fiscale, des employeurs. Ouais. Moi, je n'ai rien déclaré. C'est des déclarations automatiques quand vous faites votre demande d'APL. Et en revanche, je les avais déjà alertés sur le fait. Et je pense que c'est là aussi les bugs qu'il peut y avoir, c'est que je ne recevais pas mes déclarations trimestrielles d'activité.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin, ils vous ont dit quoi? Que vous aviez trop
perçu?
Alors,
à la fin, la personne me dit, on va vous envoyer une demande de pièces complètes. J'ai l'impression, en plus, d'avoir fait moi rentrer le loup dans la bergerie.
Comme en faisant votre demande, oui.
Quand cette personne me contacte, elle me dit, on va vous envoyer une demande de pièces complémentaires que je ne recevais pas. Et là, je suis très angoissée parce que je me dis, il va se passer un truc, on va me notifier un trop perçu, il va se passer quelque chose. Et c'est moi qui relance une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à demander un rendez-vous. Et effectivement, un jour, j'ai un rendez-vous, on me dit, comme votre fils gagne plus de 55% du SMIC, vous n'aviez pas le droit au complément familial. À l'époque, je gagnais à peu près 120 euros d'allocation plus le complément familial, donc 541 euros par mois. Et je me suis retrouvée avec 100 euros par mois. Donc, la notification de trop perçu. Là, ils ont été très rapides. J'ai envoyé les CERFA d'alternance.
Vous avez dû rembourser combien?
Là, ils m'ont réclamé 7400 euros mi-décembre.
7400 euros mi-décembre, voilà, là, vous êtes dedans, là.
Noël la part de la CAF de l'Essonne. Et ensuite, ils se sont rendus compte qu'effectivement, et c'est vraiment pour ça que je voulais apporter mon témoignage, parce qu'effectivement, c'est une machine de guerre, comme le disait la personne. Moi, j'ai complètement perdu pied. On passe déjà, je suis seule, avec un loyer de plus de 1000 euros, puisque je suis dans le privé, et je passe de 541 euros par mois, en me disant, en plus, je vais avoir un petit peu d'APL, à me retrouver avec 100 euros par mois. Là, une fois qu'ils ont commencé, moi, je leur ai dit, je ne recevais pas, j'ai pas cherché à cacher les revenus de mon fils, vous les connaissez.
C'est ça, c'est-à-dire, c'est ça ce qui est fou, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de fraude. Vous savez quoi? Restez avec nous, je voudrais que Claire Hédon puisse réagir à votre témoignage. On entend d'ailleurs dans les mots d'Alexandra, il y a eu le mot angoisse et puis je perds pied.
Alexandra dit plein de choses intéressantes. Tous vos témoignages depuis ce matin disent la même chose, hein, sur la complexité. Vous voyez bien que c'est pas des personnes qui ont voulu frauder. C'est une question de la complexité du système. Moi, je trouve que ça serait intéressant qu'elle nous saisisse parce que ce que j'entends dans ce qu'elle dit, c'est que le bail, il a été fait avec son fils juste pour qu'elle puisse avoir une location. Ça veut pas dire qu'il vit avec elle. Donc c'est complètement différent. Ça vaut le coup qu'on fouille cette question et qu'on essaye de comprendre. Mais vous voyez, d'abord les personnes ne savent pas forcément qu'on existe et qu'on peut nous saisir. Mais vous voyez, on veut juste avec ce rapport alerter les différents organismes sociaux sur la complexité, faire un certain nombre de recommandations sur la clarté du langage et qu'est-ce qu'on demande aux personnes. Sur la question quand
est-ce qu'ensuite on peut demander un échelonnement, c'est important. Alors, ça, aussi c'est de dire ça à Alexandra parce que
mais il faut quand même vérifier si elle les doit vraiment, ces sommes-là. Il y a deux choses à faire.
Si elle les doit, est-ce qu'elle peut obtenir un échelonnement?
Il y a une erreur. La deuxième chose, si jamais il y a une qualification de fraude, c'est à l'organisme social de prouver qu'il y a fraude.
fraude. Et c'est pas à la personne, à l'usager, de prouver qu'elle n'a pas fraudé. Ça, c'est le point absolument essentiel. Et après, un échelonnement des remboursements pour laisser un reste à vivre aux personnes. Et c'est la bataille qu'on a menée sur le projet de loi, vous savez, sur la fraude. On est très inquiet sur ce projet de loi. On a quand même réussi à gagner avec le ministre que soit maintenu pour les personnes un reste à vivre suffisant. C'est l'application de la Constitution qui s'engage à ce que les personnes aient un revenu minimum suffisant d'existence.
Avec une question aussi, c'est que au fond, c'est tellement décourageant et on entend le parcours du combattant étape par étape d'Alexandra. Ça a pour conséquence notamment du non-recours, c'est-à-dire des gens qui lâchent l'affaire, qui abandonnent, qui n'y vont plus, qui ne demandent même plus les aides auxquelles ils peuvent.
Mais vous voyez bien, à chaque fois, ce sont des personnes qui en fait ont commencé les démarches, mais ont plutôt abandonné devant la complexité, effectivement le risque d'être accusé de fraude ou la génération d'un dû. Et donc, on dit... Voilà, dans l'ensemble des pouvoirs publics, on dit qu'on veut lutter contre la fraude, mais enfin, lutter contre le non-recours aussi, mais la réalité, excusez-moi, c'est qu'on, de temps en temps, on se demande si on l'organise pas, ce non-recours.
Merci beaucoup, Claire Hédon, défenseur des droits. Merci d'avoir choisi RMC pour dévoiler donc votre rapport ce matin sur les dérives ou les excès de la lutte contre la fraude. Et merci à Alexandra pour son témoignage. Courage, Alexandra, dans ce labyrinthe administratif. Il est 7h51. Cécile Duflo, la voix de gauche sur RMC. Bonjour, Cécile.
Bonjour, Apolline.
Cécile, est-ce que vous savez écrire ornithorynque?
Oui, un H après le T. Un Y avant le N.
Bon, ben moi, je ne savais pas. Est-ce que c'est grave, docteur?
Eh bien, moi qui suis une psychopathe de l'orthographe, je peux vous dire que je croyais que c'était grave et que je pense que finalement pas et que le ministre se trompe.
Vous nous le dites dans un instant, il est 7h51.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la voix de gauche, mais d'abord le bonus, Mathieu. On parle du FC Barcelone et en musique.
Oui, parce qu'on chante au stade pour le Barça, vous entendez l'hymne du club bien sûr, mais à Barcelone pour le prochain Classico face au Real, la musique s'affichera aussi sur les maillots. La chanteuse américaine Olivia Rodrigo vient d'être annoncée, choisie pour apparaître sur le maillot des joueurs. En fait, un logo de pub pour Olivia Rodrigo qui va remplacer le sponsor habituel qui n'est autre que Spotify. Et depuis 2022, la plateforme et le club marquent le coup pour les grandes affiches. Plusieurs poids lourds de l'industrie du disque sont déjà passés par le maillot du FC Barcelone. Les Stones, que vous entendez, mais aussi Drake. Coldplay, Rosalia, Travis Scott, visibilité maximale pour ces artistes. Olivia Rodrigo s'affichera donc sur le torse des joueurs du FC Barcelone le 10 mai prochain pour le Classico. Barça-Real, et le Barça pourrait même être champion ce soir-là.
RMC, Apolline Matin, voix de gauche, voix de droite.
Et ce matin, comme tous les jeudis, c'est la voix de gauche, Cécile Duflo. Bonjour Cécile.
Bonjour Apolline.
Le ministre de l'Éducation veut durcir la notation de l'orthographe, de la syntaxe et de la grammaire aux examens. Il a envoyé une note de service à tous les chefs d'établissement pour aller dans ce sens. Et pour vous Cécile, l'orthographe ne doit pas être une religion.
Eh bien, figurez-vous que je suis une psychopathe de l'orthographe repentie. Moi, j'étais une très bonne élève, très sage, qui avait compris que l'orthographe, c'était... la chose absolue à savoir. Donc j'étais très très bonne en orthographe. Je reste encore traumatisée par malgré que est une abomination de la langue française écrite en rouge et en caractère énorme sur une copie. Et dès que quelqu'un dit malgré que, tout mon corps se tend encore aujourd'hui. Et quand il y a une faute d'orthographe sur un texte, ça me pique les yeux. Je crois même avoir quitté un jeune homme il y a très longtemps parce qu'il avait écrit infiniment avec deux M.
Mais donc, non ouais. Mais non.
S'il m'entend aujourd'hui,
vous regrettez
toutes mes excuses. Toutes mes excuses parce qu'en fait c'est pas forcément une chose hyper importante.
Et donc vous n'êtes plus d'accord avec ça. Vous n'êtes plus d'accord avec la Cécile Duflo d'avant et vous n'êtes donc plus d'accord avec le ministre de l'Éducation d'aujourd'hui.
Mais non, parce que j'ai continué à lire et notamment à lire l'histoire de l'orthographe grâce en particulier à d'excellents livres et au travail des linguistes atterrés et j'ai compris que la langue et l'orthographe française c'est souvent illogique et absurde. Je vous donne un exemple. Chariot et charrette, ça vient du même mot, mais chariot, il y a un seul R, charrette, il y a deux R. Pourquoi ? Zéro raison, mais zéro raison. Et c'est souvent absurde, il n'y a pas vraiment de raison, mais c'est un puissant outil de distinction sociale, et ça a même été créé pour ça. C'est-à-dire qu'on a, si on regarde d'ailleurs le Littré, un grand dictionnaire historique, on voit qu'il y avait plein d'orthographes acceptées pour le même mot, jusqu'au 18e, 19e, et ensuite on a fossilisé l'orthographe en faisant une sorte de religion, et c'est devenu un outil, grâce à la dictée, un outil de sélection scolaire. Finalement, on a sanctuariser l'orthographe pour avoir un outil de sélection scolaire, alors que En fait, c'est sans doute l'orthographe le plus compliqué de toutes les langues. Le français, c'est pas une langue très compliquée à l'oral, mais à l'écrit, c'est dingue. Juste le son O. En français, vous pouvez écrire ça. O, O-T, O-D, A-U, E-A-U, E-A-U-X, A-U-X, A-U-L-T-A-U. C'est plus de l'orthographe, c'est de la poésie ou de la folie.
Mais ça veut dire que c'est inutile, l'orthographe?
C'est pas inutile, mais si on dit par exemple des chevals au lieu de des chevaux, on comprend. Mais tout le monde et tous les adultes vont reprendre des enfants. Alors que bah on pourrait dire animal, animaux, les animaux ça doit toujours être AUX. Non, pas du tout, parce que les chacals, bah c'est des chacals. Les narvals, c'est des narvals, c'est pas des narvaux, tu sais pas pourquoi. Donc il faut se dire que le vrai sujet de la langue, c'est de se comprendre, de pouvoir s'exprimer et de pouvoir faire des choses ensemble. Donc cette obsession de l'orthographe, en fait, c'est une obsession un peu dysfonctionnelle et surtout si elle conduit à empêcher des gens qui ont de grands talents de pouvoir continuer, là, ce serait vraiment une faute.
Et vous avez peur de ça? Vous avez peur que ce soit désormais quelque chose qui freine même la créativité possible des élèves?
Bah c'est ce qu'a annoncé le ministre. Il a dit, quelqu'un qui fait trop de fautes d'orthographe, il n'aura pas la moyenne. Alors, Thomas Edison, qui a inventé l'ampoule, il écrivait en phonétique. Il y a des tas de gens qui peuvent avoir d'autres talents que celui de l'orthographe, notamment de juger sur l'orthographe des copies de sciences ou même des copies d'histoire. Si on s'exprime bien, ça se comprend, même à cause des fautes d'orthographe.
Donc c'est une obsession, une lubie des ministres de l'éducation?
Oui, un peu. En fait, un ministre de l'éducation qui ne sait pas trop quoi dire, il dit vive la dictée, mais c'est pareil depuis le 19e siècle. Et ensuite, il dit on va rendre l'orthographe obligatoire au bac. Et figurez-vous qu'il n'y a même pas 3 ans, le ministre de l'éducation, Pap Ndiaye, avait dit les notes du bac seront affectées par le mauvais orthographe. Donc c'est une sorte de marronnier inutile. Donc vive l'orthographe, mais vive aussi la capacité de s'en libérer. Et toutes mes excuses à Sébastien.
On a bien compris. Cécile Duflo, la voix de gauche, demain vous débattrez face à la voix de droite. Oui, on a le prénom, Sébastien. Notez d'ailleurs que le ministre de l'éducation que vous avez rhabillé pour l'hiver sera l'invité des GG tout à l'heure. Il sera à 11h sur RMC. Il est 7h58, on se retrouve dans une poignée de secondes sur RMC pour la météo et le journal.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.